au quotidien. Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Bien, nous parlons droit aujourd'hui, comment porter plainte en cas d'assassinat collectif. Il y a quelques semaines, au moins 50 personnes ont été tuées à Beni, dans le Nord Kivu. Des assassinats perpétrés par des présumés ADF qui opèrent dans cette partie du pays. Alors, qui prévoit la loi congolaise en cas d'assassinat collectif. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Maître Moshizi Charles, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend par assassinat collectif?
En fait, le concept d'assassinat collectif n'est pas prévu par le droit congolais. On ne parle que d'assassinat. À la limite, on peut parler peut-être de massacre, mais là, on s'inscrit dans le cadre d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre. Ça dépend des circonstances dans lesquelles les massacres ont été faits. Ça peut être des circonstances de guerre ou ça peut être simplement des circonstances de non-guerre. Et c'est en fait la différence la plus fondamentale entre crime contre l'humanité et crime de guerre.
Voilà, donc on doit parler de quoi? On ne doit pas parler d'un assassinat, plutôt d'un massacre collectif.
On peut parler d'un assassinat lorsqu'il s'agit des individus qui se prévaut de ces crimes, de cette infraction-là, de manière plutôt individuelle. Mais lorsque ça devient des meurtres de manière perpétrés de manière collective sur un groupe d'individus, et là on ne parlera plus peut-être d'assassinat au sens infractionnel du droit du code pénal ordinaire, mais plutôt soit d'un acte qui est constitutif de crime contre l'humanité, ou soit d'un crime de guerre.
Voilà, donc pour ces cas précis, comment qualifier cela?
Tout porte à croire qu'il y a des actes qui sont à la fois constitutifs de crimes contre l'humanité, notamment ces assassinats collectifs, ces viols qui s'en suivent. Tout porte à croire aussi qu'il y a des actes qui sont constitutifs de génocide, parce qu'il s'agit des groupes bien ciblés qui sont exterminés, et on en est à une énième fois. Tout porte à croire aussi qu'il y a des crimes de guerre, parce que c'est des crimes graves, des violations graves des droits de l'homme, et qui sont perpétrés dans une situation de guerre par moment. Mais en tout état de cause, il y a aussi une grave violation des conventions de Genève de 1949 et qui protège particulièrement les personnes civiles en situation de guerre.
Alors, on parle d'assassinat collectif, mais à quel moment on arrive à parler d'un génocide? Parce que je vous ai entendu parler du génocide aussi.
Le génocide se commet lorsque le groupe est ciblé sur base d'une caractéristique particulière. Il peut s'agir d'un groupe purement ethnique, il peut s'agir d'un groupe religieux, il peut s'agir d'un groupe linguistique, etc. Pourvu, en fait, qu'il y ait une caractéristique commune à ce groupe qui est victimisé.
Bien, alors pour les cas des Beni, tout le monde a déploré ce qui est arrivé dernièrement, c'est un énième massacre. Alors comment est-ce qu'on peut porter plainte? On a entendu aussi dernièrement qu'il y a près de 80 personnes qui ont été déjà arrêtées. Alors, mais comment porter plainte par rapport à ce genre de situation?
Toute situation qui victimise quelqu'un, je veux dire, toute personne qui se trouve devant une situation de victimité, a plusieurs choix. D'abord, elle peut s'adresser directement à l'autorité de la police, qui est la plus proche d'elle, et faire une déclaration qui va être actée sous forme de procès-verbal, et donc faire une plainte contre un individu, contre un groupe d'individus, contre une personne physique ou non, ou en tout cas contre un inconnu, du seul fait que elle s'est sentie victime d'une situation qui peut être constitutive d'un constitutif d'infraction ou pas, mais dans le cas, en l'occurrence, et donc d'une situation d'infraction. Au-delà de s'adresser à la personne, à l'autorité de police la plus proche, la même personne peut s'adresser au parquet le plus proche ou alors aller directement devant le juge en termes de citation directe en démontrant qu'il y a eu un fait infractionnel sur le fond duquel il a elle a été préjudiciée. Et cette déclaration qui est faite devant l'autorité peut être verbale ou écrite. Le plus souvent, l'écrit est exigé pour des raisons de preuve. Mais lorsque de toute façon l'individu se présente devant l'autorité, ses propos, sa plainte est actée et elle est entendue sur un procès-verbal qui constitue le début justement de l'enquête en principe de l'autorité qui est saisie.
Pour le cas de Béni, on soupçonne certains combattants venus d'un pays limitrophe, d'un pays étranger. Est-ce que la procédure est toujours la même?
La procédure peut être la même s'il s'agit des individus qui veulent commencer un procès contre des individus ou contre un inconnu. Mais pour ce qui est des procès en cours, parce qu'il y a déjà des procès qui sont ouverts contre un certain nombre de militaires, en tout cas d'hommes armés, je ne crois pas que ce soit très efficace à ce jour, du seul moment qu'on est en présence d'une situation qui est à sa énième répétition. Et donc, dans le cadre de massacre de Béni, il est plutôt bon que le pouvoir recherche à établir la vérité. Et les victimes qui sont en place ont plus besoin de savoir pourquoi justement elles sont suffisamment victimisées et à répétition. On s'inscrirait ainsi dans le cadre d'une commission de vérité et qui doit mener des enquêtes et qui doit largement informer sur les causes, parce que tant qu'on ne connaîtra pas les causes qui endeuillent ces populations, on ne pourra jamais trouver de solution. Et donc, dans le cadre d'un procès, c'est vrai et c'est bon qu'il y ait des procès, mais c'est jamais suffisant. On connaît combien de massacres ont été perpétrés dans ce pays, combien de procès il y a eu, mais la question de la réparation des victimes n'a jamais été au centre. Or, dans le cas des procès qui se trouve là ouvert, je ne sens pas l'État très engagé dans la réparation des victimes, qui doit être une question centrale en tout état de situation comme celle-là.
Et d'après vous, qui est habilité à porter plainte dans ce genre de situation?
Des individus qui se sentent victimes peuvent le faire, mais aussi des organisations qui ont une personnalité juridique et qui peuvent se prévaloir à quelque titre, oui, pourvu qu'elles aient une personnalité juridique, parce qu'on ne peut pas porter une action devant la justice lorsqu'on est une structure, une personne morale, sans avoir d'abord la personnalité morale. Ensuite, elles doivent justifier de l'intérêt. Ça veut dire, lorsque je parle de la personnalité juridique, je parle bien de la qualité, parce que la première condition pour introduire une action en justice, c'est d'abord d'avoir une qualité. En quelle qualité elles viendraient, mais quel serait leur intérêt aussi à soutenir cette action. Et à mon avis, ça serait un peu plus long, parce que de toute façon, il y a des organisations qui sont déjà constituées comme partie civile, des organisations de victimes qui sont constituées comme partie civile dans le cadre des procès qui sont en cours. Mais une fois encore, la centralité de tout procès, c'est d'abord la réparation des victimes. Tant que cette question n'est pas au centre de la préoccupation de l'État, ça ne sert à rien de poursuivre des individus, ça ne sert à rien d'indexer directement aux individus, parce que au-delà de ces individus, peut-être qu'il y a d'autres. Et donc, il n'y aura jamais une vérité holistique, si je devais ainsi dire, si on ne se préoccupe pas d'abord à identifier les causes de ces massacres répétitifs.
Bien, comment porter plainte en cas d'assassinat collectif? Nous recevons aujourd'hui Maître Mouchizi Charles, avocat au barreau de Kinshasa. M'a été déjà deux auditeurs en ligne, Albert Mwalanga et Takananga, et Etienne Katumanga se trouvent également dans la même ville. On commence avec vous, Albert, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jodier, bonjour notre invité.
On vous écoute.
Oui, vraiment nous sommes fatigués pour le massacre à Béni. À ce sujet, j'aimerais poser la question à notre invité. Est-ce que les familles victimes des massacres collectifs peuvent-elles traduire l'État congolais en justice pour n'avoir pas accompli son rôle régalien? Ça, c'est la première préoccupation. Oui. La deuxième préoccupation, est-ce que c'est possible de porter plainte donc, à quel instant on peut recourir pour porter plainte en dehors du pays? C'est ça ma préoccupation, merci.
Bien. Etienne Katumanga, vous êtes aussi à Kananga. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur. J'ai dit bonjour à notre invité.
On vous écoute.
J'aimerais un peu demander à notre invité s'il peut m'éclaircir. Donc, en suivant les informations sur la radio Capi, des fois on nous dit plus de 50 personnes ont été tuées. Des fois, on nous dit plus de 50 personnes ont été massacrées. Alors, j'aimerais un peu demander à notre invité, quelle différence y a-t-il entre les personnes massacrées et les personnes tuées? Merci beaucoup.
Bien, Maître Moussizi, vous avez la parole.
Oui, d'abord pour ce qui est de la qualité de famille à porter plainte, la famille en droit congolais n'a pas de personnalité juridique, mais par contre, des individus à titre personnel au sein d'une famille peuvent s'engager à titre personnel, comme je dis, à porter plainte devant une autorité face à une situation constitutive d'infraction.
Alors pour un cas d'un massacre collectif, les familles des victimes doivent porter plainte de manière aussi... ils doivent se regrouper pour porter plainte ou bien il faut le faire individuellement.
Individuellement. La famille ne peut pas se constituer au procès comme famille. Non. Ça peut être des membres de la famille, mais pas la famille en tant que telle. Parce que la famille n'a pas de personnalité juridique en droit congolais. Et donc, des individus, des proches qui peuvent venir prouver devant l'autorité judiciaire leur victimité peuvent le faire et obtenir des réparations de la part du pouvoir judiciaire en termes de dommages intérêts.
Albert veut savoir si les familles peuvent porter traduire l'État congolais en justice.
Il y a plusieurs procès qui ont porté sur des massacres et dans lesquels l'État a été effectivement condamné comme civilement responsable lorsqu'il s'est agi des militaires ou des policiers qui ont été impliqués dans les procès, en considérant que l'État a failli effectivement à son obligation d'assurer la sécurité des citoyens. Nous avons depuis 2005, par exemple, le procès de Sango Mboyo sur les massacres et les viols collectifs qui ont eu à Bongandanga, en Équateur. Nous avons les massacres des Ankoro, etc., etc. Il y a beaucoup de procès dans lesquels l'État a été condamné au titre de civilement responsable, parce que c'est à lui qu'incombe justement la charge d'assurer la sécurité de la population, mais ensuite c'est à lui de répondre du fait de ses agents, des militaires qui commettent des infractions et sur lesquelles il est censé avoir justement tout le contrôle. Pour ce qui est
auprès de quelle instance au niveau international on peut porter ces cas de Béni?
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la Cour pénale internationale qui reçoit des plaintes individuelles. Avant la Cour pénale internationale, on avait la Cour internationale de justice, la CIJ, qui est un organe des Nations Unies, mais qui ne recevait pas justement les plaintes. Évidemment, aujourd'hui, cet avantage est conforté par des mécanismes qui sont mis sur place dans les cadres régionaux, comme la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine, et qui reçoit aussi des plaintes contre des individus, mais aussi contre l'État.
Voilà. Etienne Katoumanga dit, y a-t-il une différence entre tuer ou massacrer? On parle de plus de 50 personnes tuées, parfois massacrées. Alors, sur le plan du droit, est-ce qu'il y a une différence?
D'abord, sur le plan sociologique, ça ne devait avoir aucune différence parce que l'effet est le même. On est là en face d'autant de victimes, donc ça ne change rien. Mais sur le plan du droit, lorsqu'on parle de tuer, on est soit en présence d'un assassinat ou d'un meurtre. Et lorsque on parle des massacres, on s'inscrit plutôt dans le cadre des crimes graves qui sont prévus et punis non seulement par le statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale, mais aussi dans un certain nombre de textes congolais, notamment le droit militaire qui prévoyait déjà ces genres de crimes depuis 1972.
Comment porter plainte en cas d'assassinat collectif? Maître Mouchizi Charles, avocat au barreau de Kinshasa, m'a été l'invité d'Okapi Service. Laurent Okito nous appelle de Kinshasa. Vous voulez également participer? Appelez-nous au 081 890 63 94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Okapi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Comment porter plainte en cas d'assassinat collectif? Laurent Okito et Omar Kigalo sont à Kinshasa. Laurent, bonjour et quelle est votre question?
Ok, merci beaucoup. J'aimerais tout simplement donner une lumière par rapport à la tuerie collective. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas à tergiverser lorsqu'il y a une tuerie pareille. La compétence revient à la Cour pénale internationale. Ça, c'est l'article 7 de la des statuts de Rome qui parle des crimes contre l'humanité et l'article 6 qui parle des génocides. Là, nous disons, quand il y a crime contre l'humanité, il s'agit bien de l'article 7 de la Cour pénale internationale des statuts de Rome qui dit que lorsque il y a une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile en connaissance de cette attaque, il y a meurtre, extermination, réduction et travail. Donc ça, c'est les statuts de Rome qui déterminent. Alors, lorsque l'État congolais n'est pas capable de prendre en compte cela pour réprimer tout ce monde-là, sanctionner ceux qui commettent de tels actes, alors il revient maintenant de saisir automatiquement la Cour pénale internationale.
D'accord, merci à Laurent Okito pour cette contribution. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour monsieur et bonjour à l'invité. Ma préoccupation est celle-ci. C'est vrai qu'il y a eu des cas de tuerie, mais je ne suis pas d'accord avec l'invité lorsqu'il les qualifie de génocide. Parce que pour qu'on parle de génocide, il ne suffit pas d'attaquer un groupe collectif. Encore faut-il qu'on appelle ce qu'on appelle en droit international humanitaire l'élément particulier. Est-ce qu'ils ont visé un groupe déterminé? Est-ce que le but était politique ou religieux? Je pense non. Il s'est agi d'une tuerie collective, mais pour le génocide en droit international humanitaire, il faut qu'il y ait un élément particulier. On doit dans les faits préciser que ces gens ont attaqué une ethnie bien déterminée, ils avaient un but déterminé. Or, selon le fait, ils ne viennent qu'attaquer de façon généralisée, ils ne visent personne de façon particulière. Deuxième chose, vous avez posé la question sur les étrangers. En droit congolais pénal, on appelle la territorialité des infractions. Même si un étranger vit ici, s'il commet une infraction, le juge congolais sont également compétents. Voilà, je dis les deux précisions que j'avais apportées par rapport au débat de ces jours. Je vous remercie. Et par rapport à la responsabilité de l'État, moi je pense que par rapport à ces cas, on ne peut pas dire que puisque l'État n'a pas sécurisé, qu'il est civilement responsable. En droit administratif ou en droit pénal, pour que l'État soit civilement responsable, les agents de l'État doivent avoir commis des actes qui ont pris judiciaire. Alors le simple fait de n'avoir pas sécurisé, peut-être pour incompétence ou pour manque de moyens, ne peut pas faire l'objet de la responsabilité civile de l'État. Voilà mes trois préoccupations que j'avais à partager avec l'invité. Je dis et vous remercie.
Bien, merci à Omar Kigalo de Kinshasa. Richard, vous êtes à Kanyoka. Bonjour et quelle est votre question?
Ok, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité. Moi aussi, je ne suis pas surtout d'accord avec l'invité lorsqu'il dit que la personne victimisée doit aller se présenter devant l'officier de l'état civil pour sa plainte ou soit qu'il y ait une dénonciation. Mais quel est d'abord le rôle du ministère public dans la matière de la recherche des infractions et poursuites des auteurs qui ont perpétré les actes incriminés de la loi?
D'accord, merci. Quel est le rôle du ministère public? Maître Mouchi, si vous avez Charles, vous avez la parole. Le premier intervenant, Laurent de Kinshasa, il dit il faut pas tergiverser, ces cas relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, parce que d'après lui, l'article 7 du statut de Rome a parlé de ça, et l'article 6 a parlé du génocide. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je remercie à tous les intervenants, c'est très enrichissant. Par contre, je voudrais juste lever un équivoque par rapport au premier intervenant. La Cour pénale internationale n'intervient dans les cas de crimes que lorsque l'État n'a pas la capacité ou n'a pas la volonté de poursuivre. La dernière réforme du 11 avril 2013 donne déjà compétence aux cours d'appel de connaître de tous les crimes graves, de tous les quatre crimes graves prévus par les statuts de Rome dont nous sommes signataires et sur fond desquels justement il y a de la complémentarité entre les juridictions congolaises et elle-même la Cour pénale internationale. Et donc la première compétence sur ces matières appartient au pouvoir judiciaire du du pays dans lequel le crime a été commis. Il ne s'agit pas d'aller tout de suite devant la Cour pénale internationale, parce que même si des individus se prévalent d'une certaine plainte devant la Cour pénale internationale ne peut pas remplacer la justice des États. Et donc, elle va constater d'abord que soit l'État n'a pas la capacité, soit qu'il n'a pas la volonté de poursuivre. Et ça, c'est déjà clair en termes de dispositions légales. Je parle de la loi du 11 avril 2013 qui porte la nouvelle organisation et compétence judiciaire en République démocratique du Congo, mais aussi un certain nombre de dispositions pertinentes du code pénal militaire de 2002 qui a été réformé en 2002 et qui prévoyait déjà ces genres de crimes depuis 1972, comme je l'ai dit. Et donc la compétence de la Cour pénale internationale n'est pas a priori établie lorsque la justice institutionnelle de l'État peut statuer.
Alors, Omar Kigalo de Kinshasa, il dit qu'il n'est pas d'accord lorsque vous dites que vous qualifiez cela d'un génocide. Et il a parlé aussi de la territorialité de l'infraction. Et il dit que l'État n'est pas civilement responsable par manque de moyens, parce qu'il n'y a pas eu des agents de l'État impliqués dans cette affaire.
Là aussi, il faut apporter un certain nombre d'éclaircissements. J'ai dit tout porte à croire qu'il y a des faits qui sont constitutifs de génocide. Tout porte à croire aussi qu'il y a des faits constitutifs des crimes contre l'humanité, mais aussi des crimes de guerre. Je n'ai rien qualifié a priori. Et c'est pour cela qu'il me semble plutôt urgent de conduire une enquête sérieuse pour établir la vérité et pour que les victimes sachent d'abord les causes de leur victimité. À ce jour, qualifier de manière hasardeuse serait dangereuse parce que même la justice à ce jour, je suis sûr qu'elle va être butée sur... Les causes les plus fondamentales de toute enquête, c'est-à-dire savoir établir avec pertinence la question de la vérité. L'autre question...
Il a parlé de la territorialité de l'infraction, même s'il y a on suppose qu'il y a des combattants venus de l'extérieur, mais la territorialité...
La question de la territorialité est très secondaire dans le cas des poursuites des crimes graves, hein, parce que c'est depuis 1940 que notre pays a adopté en principe de la compétence universelle, même s'il ne l'affirme pas. La justice congolaise est compétente pour toute infraction qui se commet sur le sol congolais, mais aussi pour toute infraction qui se commet à l'étranger contre un Congolais ou par un Congolais. Ça, c'est l'article 4 du Code pénal ordinaire.
Voilà, et quand il dit que l'État n'est pas civilement responsable, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
En droit civil, il y a ce qu'on appelle la responsabilité pour le préposé, du fait du préposé. Et les militaires, lorsqu'il est établi que les personnes qui sont poursuivies sont militaires ou sont des agents de l'État, l'État assume la responsabilité au titre des civilement responsables du fait de ces préposés. Ces personnes-là vont être poursuivies à titre individuel, elles vont assumer une responsabilité pénale individuelle, c'est le principe de la Constitution, c'est le principe de toutes les conventions en matière de droits de l'homme dont le pays est signataire, mais en tout état de cause, l'État, en tant que patron, assume la responsabilité civile.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Comment porter plainte en cas d'assassinat collectif? Okapi Service reçoit aujourd'hui Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Docteur Richard nous appelle de Kinshasa et Jacques de Lumbashi. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, je voudrais parler d'un type d'assassinat dont on ne fait pas attention. Lorsque nous allons assister les nôtres dans les deuils, on nous pose la question, mais notre frère est mort de la malaria, mais le visage était défoncé. Notre frère ou sœur est mort de l'hépatite, mais toute la nuque était écrasée, docteur, c'est quoi ? Faites quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et les gens se taisent. Alors, nous disons, prenez le cadavre, prenez les photos, portez plainte.
C'est comme si la communauté congolaise n'aime pas ceux qui reviennent à la vie. Dernièrement, il y a une femme qui a donné son témoignage à la 17e rue au ministère chrétien de combat spirituel. Comment Lubumbashi l'avait échappé pour être tué par les coqs morts. Et la communauté trouve ça normal. Donc, ces gens qui reviennent à la vie n'ont pas droit à la vie. C'est un assassinat. Maître doit nous éclairer là-dessus. Sinon, nous tolérons un assassinat comme ça. Sinon, nous tolérons l'euthanasie avec, comment je peux dire, brutalité et usage des marteaux, des burins, etc. Merci beaucoup.
D'accord. Jacques, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, Radio Okapi.
Oui, on vous écoute, Jacques.
Merci beaucoup, en tout cas, pour la parole. Je suis inquiet d'entendre de belles phrases des droits pénals, des droits ceci et cela. Mais, comme ma première préoccupation, qu'est-ce que l'État prévoit avant, pas après, mais avant que cet acte soit posé, qu'on puisse appeler l'assassinat?
Voilà, merci.
Et la deuxième préoccupation, qu'est-ce que l'État a toujours prévu pour les problèmes de recensement dans le côté de l'Est? Là, ça fait beaucoup de temps, toujours on parle de ce sont des Ougandais, ce sont des Rwandais, des Tanzaniens. Et comment est-ce qu'ils sont entrés dans notre territoire?
D'accord, merci Jacques de Lubumbashi. Rousseau nous appelle des Matadi, bonjour.
Bonjour, invité.
On vous écoute, Rousseau.
Bon, en suivant l'invité, il nous a dit qu'il faut d'abord savoir les causes pour des tueries à Beni. Je voulais savoir pourquoi l'État congolais ne cherche pas à comprendre d'abord des causes et qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir toutes ces causes. Donc maintenant, c'est que pour terminer dans tous ces procès-là, je peux les appeler des parodies de justice. Okay, à quoi servent tous ces procès qui se passent à Beni, car on ne connaît même pas les vraies causes de ces assassinats. Merci.
Bien, merci Rousseau de Matadi. Revenons d'abord à la question de Richard de Kanyoka qui a voulu savoir quel est le rôle du ministère public dans ce genre de situation, dans les cas des massacres de collectif à Beni.
La loi prévoit un certain nombre d'attributions propres au ministère public, parce que la loi de 2013 qui organise les attributions de tout le pouvoir judiciaire. Mais une des attributions du ministère public, c'est de rechercher et de poursuivre toutes les infractions qui se commettent sur le sol congolais ou contre les Congolais. Et donc, ça c'est classique. Le parquet peut se saisir d'office lorsque il a constaté un fait infractionnel, mais aussi il peut être saisi par tout individu qui justifie d'un intérêt ou alors d'une organisation, d'une structure qui justifie non seulement de sa qualité, mais aussi de l'intérêt à porter plainte.
Voilà. Puis nous avons Dr Richard qui a parlé des gens qui reviennent à la vie et qui sont tués par les croques morts. Est-ce que faut-il parler d'un massacre collectif aussi, assassinat collectif?
Je ne sais pas combien il y en a, quelle est l'ampleur. Je ne sais pas si on peut parler non plus d'assassinat. J'ai lu un article qui faisait état du fait que dans le froid, les morts peuvent avoir un réchauffement du cœur et qui fait qu'ils peuvent encore bouger un peu, se retourner, etc., etc. Mais en tout état de cause, lorsque des individus constatent cela, il y a un certain nombre de dispositions qui consacre la dignité à des morts. Et donc, des individus peuvent recourir à un officier de police judiciaire et pour faire le constat, justement, et faire un PV, quitte à initier une plainte après pour une question de responsabilité par rapport à ceux qui ont la charge, justement, de gérer la morgue. Il faut avoir le courage, effectivement, comme le docteur l'a dit, il faut avoir le courage de rapporter à l'autorité un fait qui semble être constitutif d'infraction. En ce moment, l'autorité qui a le pouvoir d'enquêter et de poursuivre jugera de l'opportunité après l'enquête s'il faut poursuivre ou pas et qui il faut poursuivre ou pas.
D'accord. Dieu merci, nous appelle de Bounia, Constant Gongo, de Fungurume. Dieu merci, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
J'avais juste des préoccupations. Ma première préoccupation de savoir, est-ce que y a-t-il des délais fixés, y a-t-il les délais fixés par la loi pour porter plainte devant la justice pour ces massacres collectifs? Ma deuxième question est de savoir, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de terrorisme. Si ce massacre était des terroristes et ensuite il s'est donné la mort, les victimes, est-ce qu'ils doivent se plaindre au nom de ces morts ou ça va se passer comment? C'est juste mes deux préoccupations que j'avais, monsieur le journaliste.
Merci. Constant Gongo, vous êtes à Fungurume. Bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour et bonjour à l'invité. Sinon, j'ai au moins une préoccupation. Ma préoccupation est celle-ci. Qu'est-ce que l'État congolais a déjà prévu lorsqu'il y a de tels massacres? Parce qu'il y a risque que nous attendons de tels massacres dans d'autres pays, surtout dans des pays européens. Vous allez voir, l'État déclare même un deuil qui est au moins national pendant 2 ou 3 jours. Mais ici, c'est nous. Il peut arriver que même les gens qui vivent dans cette entité, ils voulaient juste se revendiquer de leurs droits. Justement, vous allez voir, maintenant, c'est l'ordre dans ces cas-là va se faire voir maintenant pour déréclamer, pour faire éviter que les gens ne puissent pas manifester de leur colère. Maintenant, qu'est-ce que l'État a déjà prévu dans de tels cas pour calmer ces familles-là qui ont perdu au moins leurs enfants, soit leurs membres de la famille? Merci.
Bien, merci. Dieu merci, Demounia parle du délai fixé par la loi pour porter plainte.
Oui.
En cas de massacre collectif.
La loi, le code pénal ordinaire, le code pénal militaire prévoit justement des délais de prescription pour un certain nombre d'infractions, les infractions les plus ordinaires. Mais en droit pénal international, il n'y a pas de prescription possible pour les crimes de guerre, les crimes de génocide, etc. Les 4 crimes les plus graves consacrés par le statut de Rome et qui sont repris justement par les lois congolaises.
Il n'y a pas de prescription
possible. Et donc, les individus peuvent être poursuivis du chef de ces crimes en tout état de temps et de circonstances. Et l'article 7 du statut de Rome, qui est repris aussi par la loi de 2013, reprend que même la qualité officielle des personnes visées est impertinente. Donc il peut s'agir d'un chef de l'État, comme aujourd'hui on en a à la CPI, il peut s'agir d'un haut officier militaire, il peut s'agir de n'importe qui, le principe est de la non-pertinence, et celui de la non-pertinence de la qualité officielle de la personne qui est poursuivie.
Dieu merci parle également aussi, il s'agissait d'un terroriste qui vient et qui a tué les gens et qui se donne la mort après, comment est-ce que la loi congolaise prend en charge ces genres de situations?
La loi congolaise prévoit le principe de responsabilité pénale, mais aussi de responsabilité civile. En matière infractionnelle, la responsabilité pénale est individuelle, c'est-à-dire la personne, seule la personne qui a commis le crime va être poursuivie sur le plan pénal. Elle peut être condamnée aussi à des dommages et intérêts, évidemment, pour des situations qui ont préjudicié des individus qui ont démontré devant le juge leur victimité et le niveau de préjudice, mais en tout état de cause, lorsque ces personnes répondent d'une certaine hiérarchie, cette hiérarchie sera toujours civilement responsable du fait qu'elle n'a pas eu tout le contrôle et n'a pas eu toute la diligence possible pour bien administrer les personnes qui ont commis des crimes et qui se font être ces préposés. L'État prévoit déjà des lois et des institutions à titre de prévention. Et donc, il y a la police de manière générale, mais il y a tout particulièrement la police judiciaire, devant laquelle toute personne qui est victime d'une infraction peut s'adresser, et la police judiciaire est la plus proche de toute la population. Donc il ne faut pas attendre aller au parquet, il faut justement s'adresser à l'autorité judiciaire, l'autorité de la police judiciaire qui est la plus proche.
Et Rousseau de Matad y a dit, pourquoi l'État, vous avez dit qu'il faut rechercher d'abord les causes de ces massacres collectifs avant d'organiser un procès, d'après lui, pourquoi l'État ne recherche pas d'abord les causes de ces massacres à répéter avant d'organiser, d'après lui, cette parodie des justices, des procès.
Nous avons observé un certain nombre de procès qui portent sur les crimes graves, les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire depuis 2005 jusqu'à ce jour. Rien n'a été établi depuis Songo Mboyo jusqu'à ce jour en termes de vérité clair en termes de cause de ces massacres, en termes de commanditaires des massacres. Et donc aujourd'hui, la question qui est centrale et qui doit être prise en charge par l'État, c'est celle d'établir d'abord la vérité. Et nous avons raté la coche pour ce qui était de la commission de vérité et réconciliation pendant la transition. Aujourd'hui, elle se pose avec acuité comme besoin. Il est important aujourd'hui plutôt de centraliser la question de la vérité et celle de la réparation des victimes. Parce que l'État a été plusieurs fois condamné comme civilement responsable chaque fois qu'il y a eu des militaires impliqués dans les cas de procès, mais il n'y a aucune seule victime de toutes ces millions de victimes qui a reçu un seul rang de l'État. Pourtant, l'État a déjà été condamné. Et donc, face à cette situation, je crois que ce qui est important, c'est pas de conduire des procès juste pour faire belle figure devant la communauté internationale, mais plutôt d'aider les victimes à comprendre pourquoi elles ont été victimes, qui les a rendues victimes, et de demander finalement, à la fin, oui, est-ce que nous pouvons être réparés? Parce que aujourd'hui, nous sommes en face des préjudices qui ont touché, plutôt des dommages qui ont touché des biens à caractère communautaire, comme des églises et des écoles. Et c'est pas des plaintes individuelles qui vont construire ces écoles et autour desquelles se retrouvait toute une communauté qui symbolisait une grande valeur pour ces communautés. Et donc, il est important que l'État centralise la question de l'établissement de la vérité préalable, mais aussi celle de la réparation des victimes, au lieu de conduire des procès qui on sait déjà à quoi ça va aboutir à peu près.
Bien, Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, merci et bonne journée.
Merci et bonne journée à vous.